Et cet été, hélas, il a été bien difficile d'y réchapper après Hititi, petit bikini. On a eu droit à trop gros burkini, une étape de plus dans le long psychodrame qui réunit l'islam et la laïcité à la française, avec les tentations habituelles, celles de la loi, les dilemmes bien connus, s'agit-il d'une volonté de défendre le vivre ensemble, ou bien tout simplement d'une manifestation de plus d'islamophobie. Pour tenter d'y voir clair, nous sommes en compagnie d'un jeune philosophe, Michael Fessel. Bonjour.
Bonjour.
Michael Fessel, vous êtes professeur de philosophie à l'école polytechnique. Hier, un extrait d'un son capté par un iPhone a tourné en boucle sur la toile. Il s'agissait d'un restaurateur de Tremblay en France qui a refusé de servir deux femmes voilées. J'ajoute que ce restaurateur, après le bruit causé par cet enregistrement, a présenté ses excuses.
Madame, les terroristes sont musulmans et tous les musulmans sont terroristes.
Okay.
Voilà, cette phrase-là veut tout dire.
Okay.
Analysez-la et voilà.
J'ai pas besoin d'analyser des bêtises.
Ouais. Hein, on a fait les curés maintenant, je crois. Je suis dans un pays laïque et j'ai le droit d'avoir une opinion. Et des gens comme vous, j'en peux pas chez moi. Point barre.
D'accord.
Voilà. Et ça mérite d'être clair.
Ça l'est.
Voilà.
Ça, pour être clair, ça l'est, monsieur.
Voilà. Alors vous, je vous imposez ici, c'est pas clair.
Mm-hmm.
Sortez.
Cet enregistrement, Michael Fessel, est-il révélateur du climat qui règne aujourd'hui dans le pays?
C'est à craindre. Et on y retrouve en tous les cas un certain nombre des thèmes qui ont été employés d'abord du point de vue républicain, qui ensuite ont peu à peu dérivé, en particulier lorsque ce monsieur prend pour argument d'être dans un pays laïque et de ce point de vue de se sentir en droit d'exclure, j'imagine, de ce qu'on appelle aujourd'hui un espace public, un restaurant des femmes sous prétexte qu'elles y arrivent voilées. On voit bien que ce débat public centré sur la peur de l'autre, évidemment, et sur l'humiliation, il faut bien le dire aussi, d'un certain nombre de personnes, finit au nom des valeurs de la République de par produire des effets de rejet qui sont extrêmement préoccupants. Ce qui, en même temps, me fait réagir, ça fait maintenant un mois que la France se passionne pour cette question de burkini, ce qui me fait réagir d'abord, je dirais, c'est presque le mot, le caractère un peu dérisoire du mot. Je ne sais pas si ça a été souvent noté, cela, et je ne sais pas d'ailleurs qui a eu cette idée un peu saugrenue de faire cette contraction entre la burqa et le burkini, mais j'ai presque envie de dire que, de renverser la fameuse phrase de Marx, hein, si vous voulez, Marx avait dit les choses se répètent toujours deux fois dans l'histoire, une première fois comme tragédie, une seconde fois comme comédie, et là on a plutôt l'impression qu'elles se répètent une première fois comme comédie, et ensuite comme tragédie. Je rappelle qu'en France, il y a une cinquantaine d'années, la dernière fois que la question de la police des vêtements se posait, c'était dans le cadre d'une comédie, je crois que c'était le gendarme de Saint-Tropez qui chassait les nudistes sur les plages du sud-est. Et aujourd'hui, c'était une farce et ça n'avait pas lieu d'être autre chose. Aujourd'hui, on voit cette question de la police des vêtements, cette réflexion, si j'ose dire, sur la manière dont il faut se comporter sur la plage. La question aussi de savoir si la laïcité est un principe qui doit s'appliquer au bord de mer, ressurgir dans un cadre qui est tout de même un cadre très préoccupant du fait même de l'intensité, on vient de l'entendre, que cela peut produire, de la violence que cela peut produire dans le débat public.
Vous parlez de farce. Est-ce que vous pensez qu'on a consacré trop de temps à ce thème lorsque vous dites la France, lorsqu'on parle d'opinion publique? S'agit-il d'une construction médiatique comme cela a été dit, ou bien est-ce révélateur, là encore, d'un hiatus dans le pays, ou en tout cas d'un clivage entre ceux qui ont une conception ouverte de la laïcité, d'autres qui auraient une conception plus restrictive?
Alors, l'espèce, ce ne sont pas tellement les médias que j'incriminerais, mais un certain nombre de maires qui ont décidé de porter cette affaire, disons, au plus haut point même, je dirais, de la justice administrative, puisque le Conseil d'État a dû, pour le meilleur d'ailleurs à mes yeux, mais enfin, il a dû tout de même se réunir pour légiférer d'ailleurs, mais pour rendre un arrêté sur cette question hautement fondamentale dans la France d'aujourd'hui, du burkini. Il est clair qu'il y a tout un contexte, tout le monde l'a bien compris, un contexte lié au terrorisme qui facilite, je dirais, un certain nombre de transitions, dont le restaurateur qu'on a entendu a donné la caricature, cette espèce de syllogisme incroyable, vous êtes musulmane, tous les musulmans sont terroristes, donc vous êtes terroriste. Et de ce point de vue-là, Je crois que le concept de laïcité, il y a deux notions finalement qui sont requises dans ces questions-là, la laïcité et l'ordre public. Mais le concept de laïcité, évidemment, c'est pas la première fois que ça arrive, mais là, ça a éclaté au grand jour, a subi une transformation absolument capitale. J'en veux pour preuve que dans l'arrêté de Villeneuve-Loubet, dans le qui a été donc censuré par le Conseil d'État, il était noté, je cite, « Il faut sur la plage une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité. » Alors déjà, le retour de la notion de bonne mœurs pourrait sembler un petit peu préoccupant, d'autant plus qu'une fois de plus, il faut le noter, c'est toujours sur le corps de la femme que l'on légifère pour la question des mœurs. Et puis surtout, cette espèce d'équivalence entre les bonnes mœurs et la laïcité, comme si la laïcité était un principe de mœurs. La laïcité, c'est un principe juridique qui s'applique à l'État, hein, et par conséquent, au lieu public entendu au sens, disons, lieu administratif. Mais la laïcité est de plus en plus devenue, non seulement lors de ce mois d'août, mais c'est le cas depuis de nombreuses années, un principe disciplinaire, c'est-à-dire un principe qu'on entend, par lequel on entend contraindre le corps des individus, en l'espèce ici des femmes, dans l'espace public. Et de ce point de vue-là, je crois que il y a non seulement une confusion, mais évidemment des instrumentalisations politiques de part et d'autre qui sont tout à fait regrettables.
Alors aujourd'hui, effectivement, le burkini n'est plus seulement un costume de bain, c'est devenu un objet politique. Écoutez Nicolas Sarkozy dans son discours à Château-Renard le 25 août 2016. Il a proclamé le refus donc du burkini et son soutien aux maires qui l'ont interdit.
Je refuse le burkini sur les plages de France et dans les piscines de France. Je soutiens sans réserve les maires, de droite comme de gauche, qui pour préserver l'ordre public l'ont interdit. Prenons garde, mes chers amis, à ce qui s'est passé en Corse ne finisse pas par arriver sur le continent. La fermeté de la République est aujourd'hui testée par des provocations militantes et politiques. La République doit être ferme. Je demande une loi d'interdiction sur tout le territoire de la République.
Alors voilà effectivement l'un des arguments évoqués, Michael Fessel, l'idée selon laquelle le burkini serait en réalité un signe politique, il s'agit d'une provocation, et donc qu'il ne faudrait pas l'assimiler à un vêtement anodin ou un signe de mode. Qu'en pensez-vous ?
C'est sans doute un signe religieux, c'est incontestable. La question, c'est de savoir si cela attente à l'ordre public. Ce qu'il y a, je ne suis pas juriste, mais ce que j'ai trouvé tout à fait remarquable dans l'arrêté du Conseil d'État, c'est la définition qu'il donne de l'ordre public, qui est aussi une notion qu'on invoque un peu à tort et à travers. Et il précise, d'ailleurs de manière là aussi presque amusante, que l'ordre public, c'est pas une notion qu'on peut définir de manière universelle, c'est une notion que l'on ne peut définir que dans le contexte où elle s'applique. Autrement dit, l'ordre public à la plage, puisque c'est cela qu'on parle, relève ou contient plus exactement l'ensemble des règles relatives à la sécurité de la baignade, je crois qu'il appelle, il évoque aussi le Conseil d'État, la décence, mais qu'on ne peut pas faire de l'ordre public, si vous voulez, un élément là aussi qui soit disciplinaire et absolument généralisé. D'autre part, et c'est bien la tentation dans ce qu'on vient d'entendre, un certain nombre d'hommes politiques en appellent en quelque sorte à la démocratie, entendue comme opinion, contre le droit. C'est-à-dire, au fond, on va légiférer, c'est-à-dire que l'état de droit n'étant pas satisfaisant pour les mesures que nous entendons prendre, on va en appeler au peuple, en quelque sorte. Et dans l'histoire, cela aussi, je crois qu'il faut s'en souvenir, en général, lorsque l'on sacrifie l'état de droit à la démocratie ou à la supposée démocratie, eh bien, la démocratie elle-même n'en ressort que très rarement victorieuse. Il y a, dans cette atmosphère, je dirais, extrêmement hostile à l'égard du droit, de sa logique propre, de ses exigences propres en matière de rigueur en particulier, il y a quelque chose qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne flatte pas du tout la démocratie, mais simplement l'opinion dans un instant qui, effectivement, chacun le comprend, est particulièrement tendue à l'égard des questions, disons, religieuses et de laïcité.
Mais il y a également une autre possibilité, notamment dans le discours de Nicolas Sarkozy, si on cherche à considérer que l'état de droit, ce ne sont pas les tables de la loi, c'est lui qui a dit cela, Nicolas Sarkozy. Il y a également une autre interprétation. On a vu dans un sondage récent qu'il y avait une majorité de Français qui était favorable à l'interdiction du burkini. Or, si on essaye de reprendre la manière dont le droit s'est construit en démocratie. Et par exemple, l'interprétation qu'en fait un sociologue comme Émile Durkheim, eh bien, Durkheim considère, au début donc du XXe siècle, que la loi, et notamment les peines qui sont infligées aux individus, doivent être en quelque sorte proportionnelles à la conscience commune. Est-ce qu'il ne faut pas considérer que le burkini choquant la conscience commune, eh bien, il faut légiférer à ce sujet, Michael Fessel?
Alors là, la phrase que j'ai entendue la plus pertinente concernant ces histoires de burkini, et en l'occurrence plutôt de burqa, elle émane de Thomas de Maizière, qui est le ministre allemand de l'Intérieur et qui est plus est membre du Parti conservateur. Ça fait trois bonnes raisons, enfin deux, je laisse le côté allemand, deux bonnes raisons de ne pas être suspect d'être un libertaire absolu et dangereux. C'est qu'il a dit « on ne peut pas interdire tout ce que l'on rejette ». Et il a, de ce point de vue-là, marqué ce qui me semble absolument fondamental, c'est-à-dire la différence entre le droit et la morale, ou la manière dont nous avons spontanément d'évaluer ce que nous voyons. À titre personnel, je ne suis pas ravi, et même parfois, peut-être éventuellement, en tout cas beaucoup de Français le sont, particulièrement choqués de voir des femmes qui sont recouvertes de pieds en cape. Bon. Mais cela étant, la question qui se pose, c'est de savoir s'il faut introduire dans le droit tous nos refus, voire tous nos dégoûts, voire tous nos malaises. Si la société, évidemment, et c'est cela le mésusage du concept de démocratie, parce que heureusement la démocratie ne s'arrête pas simplement à nos opinions ou à nos évaluations quotidiennes. Mais si la société française décide de mettre le doigt dans l'engrenage qui consiste au fond à légiférer sur ce qui majoritairement, même si c'est majoritaire, constitue un rejet, évidemment, la chose deviendra d'autant plus difficile que cela impliquera une remise en cause même de la Constitution et pas seulement du droit. Alors ça ne veut pas dire que la démocratie
soit... Un peuple libre peut modifier sa constitution.
On peut modifier certes sa constitution, mais encore faut-il essayer de le faire avec prudence et pas à l'occasion, je dirais, d'un contexte qui, de toute façon, ne peut être que défavorable à une partie de la population. J'ajoute que la démocratie n'est pas, cette fois-ci je parle de la démocratie, pas seulement du droit, n'est pas non plus totalement démunie. Parce que, évidemment, il ne s'agit pas de rester passif face à des phénomènes comme la radicalisation, j'emploie ce terme, je ne l'aime pas beaucoup, mais je n'en vois pas d'autres, à la radicalisation d'une partie de la population, d'ailleurs musulmane ou non musulmane. Eh bien, ces moyens que la démocratie utilise, en principe, c'est le conflit en termes d'idées, j'entends, un conflit raisonnable, c'est la pédagogie, c'est l'éducation, et ce n'est pas nécessairement l'interdiction qui, de toutes les manières, produit des effets qui sont bien souvent contraires à ceux que l'on prétend vouloir atteindre.
J'ai un autre parallèle à vous soumettre, il peut être largement discutable, et d'ailleurs vous le discuterez probablement, Michael Fessel. On a considéré, par exemple, que ce qui choquait la conscience commune, c'était la prostitution. Et la prostitution, en France, par un artifice de loi, en pénalisant les clients, a été, ou en tout cas on tente, de l'abolir. Or, on considère que l'un des problèmes posés par le burkini, c'est qu'il représente la sujétion de la femme. Est-ce que du coup, puisque nous avons interdit la prostitution, puisque nous tentons de le faire, toujours parce qu'elle est considérée comme quelque chose d'insupportable, y compris pour des personnes qui sont volontaires peut-être pour exercer ce métier, est-ce qu'on ne pourrait pas tenter quelque chose de ce type avec le burkini ?
Alors, il se trouve que j'étais pas du tout favorable non plus à l'interdiction de la prostitution, en tout cas dans les termes où elle a été présentée, en ce sens que là aussi, là encore, même si c'est au nom de l'égalité entre l'homme et la femme, c'est le corps de la femme qui... de manière, je dirais, en tout cas majoritaire, devient l'objet des discussions des hommes, en général, souvent d'ailleurs. Évidemment, la question, le parallèle peut être poussé sur un point, qui est la question de savoir si... ces femmes sont volontaires ou pas. Dans le cas où elles ne le sont pas, où elles ne le seraient pas, que ce soit pour la prostitution ou pour le port d'une tenue religieuse, eh bien, il y a dans le dispositif légal, je dirais, déjà existant, à droit constant, comme on dit, largement de quoi, évidemment, aider ces personnes. Maintenant, dans le cas où elles le sont, certaines le sont, même si c'est quelque chose qui, là aussi, à titre personnel, pour ce qui concerne la prostitution, peut évoquer chez les gens toute une série de rejets, de dégoûts, la question reste tout de même ouverte de savoir si l'État doit régler par la loi la question de l'unité sociale et de sa diversité. Parce que vous citiez Durkheim, mais Durkheim avait quand même, c'est un sociologue, c'est-à-dire qu'il cherchait les logiques immanentes à la société, sans vouloir ou sans rêver et sans fantasmer, ce qui d'ailleurs dans l'histoire s'est révélé en général extrêmement dangereux, une société qui serait intégralement formée, constituée, on pourrait même dire d'une certaine manière régimentée par l'État.
Mais oui, mais ce qui est intéressant justement chez Durkheim, qui est un sociologue, il faut rappeler que les sociologues républicains au XIXe siècle, ou des gens comme Littré, par exemple celui du dictionnaire, sont des savants qui ont constitué la République, et pour eux, la morale, c'est ce qui rendait la société homogène, parce qu'il fallait que la société soit solidement constituée par des individus qui avaient un socle commun étroit. Est-ce que justement, cette nouvelle morale, là aussi je cherche à vous titiller, Michael Fossel, elle ne consisterait pas à considérer qu'un certain nombre de vêtements, d'objets peuvent séparer les hommes et qu'il nous faut aujourd'hui nous rassembler en abandonnant un certain nombre de ces vêtements.
Oui, mais Durkheim pensait à la fois que la société devait ou reposait sur une morale, mais une morale qui était tout de même une morale fondée, enfin liée en tous les cas à l'individualisme. Autrement dit, il n'y avait pas dans son esprit l'idée de reconstituer un paradigme qui est d'ailleurs beaucoup plus religieux au sens, enfin que moral, c'est-à-dire de mettre en lieu et place, disons, des principes républicains, un certain nombre de valeurs qui s'imposeraient à la conduite des hommes. Moi, je suis extrêmement préoccupé, pour seulement qu'on puisse dire, par le devenir valeur des principes, parce que dans valeur j'entends évaluation, et je reviens un peu à l'idée que j'évoquais tout à l'heure, nous évaluons tous quotidiennement et en permanence ce que nous voyons, moult fois nous sommes choqués par ce que nous voyons, faut-il en déduire qu'il faut une loi pour en quelque sorte nous éviter d'être confrontés à l'altérité choquante, j'en doute.
Dans l'un de vos livres, Michael Fossel, État de vigilance, qui vient d'être publié en poche essai, vous écrivez « La banalité sécuritaire se vérifie d'abord dans la routinisation des mesures qui ne cessent de restreindre les marges de liberté des citoyens ». L'épisode du Burkini arrive après l'attentat de Nice. Est-ce que finalement, ça n'est pas justement l'une des preuves de ce que vous annoncez dans votre livre ?
L'une des questions que pose ce livre, c'est effectivement de savoir non pas simplement pourquoi il entre dans les politiques ou le désir politique de multiplier ce nombre de lois, disons, répressives, ça on peut le comprendre assez facilement, mais pourquoi est-ce que cette demande sécuritaire rencontre effectivement dans l'opinion des échos en général, un écho généralement positif. Alors il y a plusieurs hypothèses qui sont invoquées, celle que je voudrais citer, c'est qu'évidemment, la sécurité, c'est ce que l'on offre lorsqu'il n'y a plus rien à offrir, en quelque sorte, et que c'est sur le fond, tout de même, et ça date pas d'aujourd'hui, ni même du terrorisme, c'est parce que l'État ou le politique en général a renoncé, en quelque sorte, à un certain nombre de promesses en matière, disons, en particulier économique et sociale, que la sécurité s'est imposée comme une sorte de substitut dans la promesse faite aux électeurs et que, pour le pire, à mon sens, ce substitut a souvent été adopté comme suffisant.
On vous retrouve, Michael Fossel, à 8h15. Vous serez rejoint par Anastasia Colosimo, qui est également philosophe. Elle a publié Les bûchers de la liberté. Elle a beaucoup réfléchi à la notion de blasphème et votre ouvrage republié s'intitule État de vigilance.